Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente Différentes saisons, volume 1. De Stephen King, traduit de l'anglais par Pierre Allien, lu par Marvin Schlick. Des saletés salement faites. ACDC. La rumeur me l'a dit. Norman Whitfield. Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le cœur oublie. Flaubert. C'est l'histoire, pas celui qui la raconte. Espoir, éternel printemps. Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Pour Russ et Florence Dorr. Il y a un type comme moi dans chaque prison fédérale ou locale des États-Unis, je suppose. Je suis celui qui peut tout vous avoir. Des cigarettes spéciales, un sachet d'herbe, si vous êtes porté là-dessus. Une bouteille de cognac pour fêter le bachot de votre fils ou de votre fille. Presque n'importe quoi. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis arrivé à Shawshank quand j'avais tout juste 20 ans. Et je suis un des rares individus de notre heureuse petite famille qui veut bien avouer ce qu'il a fait. J'ai commis un meurtre. J'ai pris une assurance avec une grosse prime au nom de ma femme, qui avait 3 ans de plus que moi. Et j'ai bricolé les freins du coupé Chevrolet que son père nous avait donné en cadeau de noces. Ça a marché exactement comme je l'avais calculé. Sauf que je n'avais pas prévu qu'elle s'arrêterait pour prendre la voisine et le petit garçon de la voisine en descendant de Castle Hill pour aller en ville. Les freins ont lâché et la voiture a traversé les buissons bordant le terrain communal avant de prendre de la vitesse. Les passants ont dit qu'elle faisait au moins du 80 quand elle a heurté le socle du monument de la guerre civile et qu'elle a explosé en flammes. Je n'avais pas non plus prévu que je serais pris. Mais j'ai été pris. On m'a donné un abonnement pour Shawshank. Le Maine n'a pas la peine de mort, mais le procureur a veillé à ce que je sois jugé pour les 3 morts et à ce que je reçoive 3 condamnations à perpétuité, prenant effet l'une après l'autre. Ce qui bloquait toute chance de conditionnel pour longtemps. Très longtemps. Le juge a qualifié ce que j'avais fait de crime odieux, abominable. Ce qui est vrai, mais il est aussi vrai que c'est maintenant du passé. Vous pouvez voir ça dans les archives jaunissantes de l'appel de Castle Rock, où les grands titres annonçant ma condamnation paraissent un peu drôles et démodés à côté des nouvelles de Hitler et Mussolini et des soupes populaires de Roosevelt. « Suis-je réhabilité ? » demandez-vous. Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire, du moins quand il s'agit de prison et de peine. À mon avis, c'est un mot de politicien. Il a peut-être un autre sens, et il se peut que j'aie une chance de le découvrir, mais c'est dans l'avenir. Une chose à quoi les tolards s'entraînent à ne pas penser. J'étais jeune, pas mal fait, je venais des quartiers pauvres et j'ai engrossé une jolie fille boudeuse et entêtée qui vivait dans une des belles vieilles maisons de Carbine Street. Son père a consenti au mariage si j'allais travailler dans son entreprise d'optique, en partant de la base. J'ai découvert qu'en fait il voulait me garder sous la main chez lui, comme une bête mal domestiquée et qui pourrait mordre. Finalement, la haine s'est accumulée au point que j'ai fait ce que j'ai fait. Si j'avais une seconde chance, je ne le ferais plus. Mais je ne suis pas sûr que cela veuille dire que je suis réhabilité. De toute façon, ce n'est pas de moi que je veux parler. Je veux vous parler d'un type qui s'appelle Andy Dufresne. Mais avant de pouvoir vous parler de lui, il faut que j'explique encore un certain nombre de choses à mon sujet. Ce ne sera pas long. Comme je disais, je suis celui qui peut tout vous avoir, ici, à Shawshank, depuis bientôt 40 putains d'années. Et il ne s'agit pas seulement de contrebande comme des cigarettes supplémentaires ou de l'agnole, bien que ce soit toujours le plus demandé. Mais j'ai procuré des milliers de trucs à des mecs qui purgeaient leur peine. Des trucs parfois tout à fait légaux, mais difficiles à trouver dans un endroit où on est censé rester pour être puni. Il y avait un type qui était là pour avoir violé une petite fille et s'être exhibé devant des douzaines d'autres. Je lui ai trouvé 3 morceaux de marbre rose du Vermont et il en a fait 3 sculptures adorables. Un bébé, un garçon d'environ 12 ans et un jeune homme barbu. Il les a appelés les 3 âges de Jésus et ces sculptures sont maintenant dans le salon de l'ancien gouverneur de cet état. Et il y a un nom dont vous vous souvenez peut-être si vous avez grandi au nord du Massachusetts. Robert Alan Cote. En 1951, il a essayé de voler la première banque commerciale de Mechanic Falls et le hold-up a tourné au bain de sang. 6 morts en tout. 2 membres du gang, 3 otages et un jeune flic qui a levé la tête au mauvais moment et a reçu une balle dans l'œil. Cote avait une collection de monnaie. Naturellement, on n'allait pas la lui laisser ici, mais avec un peu d'aide de sa mère et d'un intermédiaire qui conduisait le camion de la blanchisserie, je suis arrivé à les lui avoir. « Bobby, je lui ai dit, tu dois être cinglé de vouloir ta collection de monnaie dans une auberge pleine de voleurs. » Il m'a regardé, il a souri et m'a dit « Je sais où les mettre. Elles seront bien à l'abri. Ne t'inquiète pas. » Et il avait raison. Bobby Cote est mort d'une tumeur au cerveau en 1967, mais sa collection n'a jamais reparu. J'ai trouvé au gars des chocolats pour la Saint-Valentin. J'ai trouvé 3 de ces milkshakes verts qui servent dans les McDonald's vers la Saint-Paddy pour un Irlandais fou qui s'appelait O'Malley. J'ai même organisé à minuit une projection de Gorge Profonde et du Diable et Miss Jones pour un groupe de 20 mecs qui avaient mis leur richesse en commun. Même si j'ai fini par faire une semaine de mitard pour cette petite escapade. C'est le risque à courir quand on est pourvoyeur. J'ai trouvé des manuels et des bouquins porno, des gadgets comme du fluide glacial et de la poudre à gratter, et j'ai plus d'une fois réussi à donner à une longue peine une culotte venant de sa femme ou de sa petite amie. Et j'imagine que vous savez ce que les types font avec pendant les longues nuits où le temps s'étire comme une épée. Tout ça n'est pas gratis, et parfois c'est même cher. Mais je ne le fais pas seulement pour l'argent. À quoi peut me servir l'argent? Jamais je n'aurai une Cadillac, jamais je ne prendrai l'avion en février pour passer 15 jours à la Jamaïque. Je le fais pour la même raison qu'un bon boucher ne vous sert pas de viande avariée. J'ai une réputation et je veux la garder. Il y a 2 choses à quoi je refuse de toucher, les armes et les drogues dures. Je n'aiderai personne à se tuer ou à en tuer d'autres. J'ai assez de tueries dans la tête pour toute une vie. Ouais, je suis un vrai Neiman Marcus. Et alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 pour me demander si je pouvais faire venir Rita Hayworth dans sa cellule, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Et il n'y en a pas eu. Quand Andy est arrivé à Shawshank en 1948, il avait 30 ans. C'était un petit mec propre, avec des cheveux blonds roux, des petites mains à droite, des lunettes cerclées d'or. Il avait toujours les ongles nets et bien taillés. C'est drôle de se souvenir de ça, penserez-vous. Mais pour moi, c'est Andy tout craché. Il avait toujours l'air de porter une cravate. À l'extérieur, il avait été vice-président du service financier d'une grande banque de Portland. Une belle place pour un type aussi jeune, surtout quand on connaît la tradition conservatrice des banques. À multiplier par 10 en Nouvelle-Angleterre, où les gens ne supportent de confier leur argent à un type que s'il est chauve, qu'il boite et qu'il tire sans cesse sur son pantalon pour rajuster son bandage hernière. Andy était là pour avoir tué sa femme et l'amant de sa femme. Comme je crois l'avoir dit, en prison tout le monde est innocent. Oh, il récite ce texte sacré comme les bénisseurs de la télé vous annoncent la révélation. Ils sont victimes des juges au cœur de pierre et aux couilles idem, ou des avocats ignares, ou d'une machination policière, ou ils n'ont pas eu de chance. Ils récitent leur texte, mais on peut en lire un autre sur leur visage. La plupart des tolards sont des canailles qui ne valent rien, ni pour eux, ni pour les autres, et dont le pire malheur est que leur mère n'a pas avorté. Pendant tout le temps que j'ai passé à Shawshank, il n'y a pas eu 10 hommes que j'ai cru quand ils m'ont dit qu'ils étaient innocents. Andy Dufresne était l'un d'eux, bien qu'il m'ait fallu des années pour m'en convaincre. Si j'avais fait partie du jury qui a jugé son affaire à la cour d'assises de Portland pendant 6 semaines orageuses en 1947-48, je l'aurais déclaré coupable, moi aussi. C'était une sacrée affaire, à vrai dire. Un de ces procès juteux avec tous les ingrédients de la panoplie. Une belle fille du grand monde, morte, un héros sportif du coin, mort lui aussi, et un jeune homme d'affaires plein d'avenir dans le boxe. Tout ça, plus tous les scandales que les journalistes pouvaient déterrer. Si le procès a duré aussi longtemps, c'est que le proc pensait à se faire élire représentant et qu'il voulait que le public ait tout le temps d'admirer sa gueule. C'était un cirque judiciaire pour le gratin, et les spectateurs faisaient la queue à 4h du matin, en dépit du froid glacial, pour être sûrs d'avoir une place. Voici les faits avancés par l'accusation, et Candy n'a jamais contesté. Qu'il avait une femme, Linda Collins Dufresne, qu'elle avait exprimé le désir d'apprendre à jouer au golf au country club de Falmouth Hills, qu'elle avait effectivement pris des leçons pendant 4 mois, que son professeur était un pro de Falmouth Hills, Glenn Quentin, que fin août 1947, Andy avait appris que Quentin et sa femme étaient devenus amants. Candy et Linda s'étaient violemment disputés l'après-midi du 10 septembre 1947, que le sujet de leur dispute était l'infidélité de Linda. D'après Andy, Linda avait été contente de ce qu'il soit mis au courant. Les cachotteries, avait-elle dit, la déprimaient. Elle avait l'intention, d'après lui, de divorcer à Reno. Andy répondit qu'il la verrait en enfer avant d'aller à Reno. Elle partit passer la nuit avec Quentin dans le bungalow qu'il avait loué non loin du terrain de golf. Le lendemain matin, sa femme de ménage les trouva tous les deux morts dans le lit. Chacun avait reçu 4 balles. C'est ce détail qui avait accablé Andy, plus que tout le reste. Le procureur aux ambitions politiques en avait fait grand cas dans son acte d'accusation et dans son réquisitoire. Andrew Dufresne, avait-il dit, n'était pas un mari trompé que sa fureur avait poussé à se venger. Cela, d'après le proc, aurait été compréhensible, bien qu'inexcusable. Non, sa vengeance avait été froide, beaucoup plus froide. « Voyez !» tonna le procureur. « 4 et 4. Non pas 6 coups, mais 8. Il a vidé son chargeur et il s'est arrêté le temps de recharger pour tirer encore sur eux. 4 pour lui et 4 pour elle, hurlait le Sun de Portland. Le Register de Boston le surnomma le tueur de sang-froid. Un employé d'un prêteur sur gage de Lewiston témoigna qu'il avait vendu un 38 Special Police à 6 coups à Andrew Dufresne 2 jours avant le double meurtre. Un barman du country club témoigna qu'Andy était arrivé vers 7 heures le soir du 10 septembre, s'était envoyé 3 whiskies secs en 20 minutes. Quand il s'était levé de son tabouret, il avait dit au barman qu'il allait aller chez Glenn Quentin et que lui, le barman, pourrait lire la suite dans les journaux. Un autre employé, celui-là venant du bazar Handy Peak à environ 1 mile de chez Quentin, dit à la cour que Dufresne était venu vers 9h moins le quart le même soir. Il avait acheté des cigarettes, 3 bouteilles de bière et quelques torchons. Le médecin légiste du comté témoigna que Quentin et la femme Dufresne avaient été tués entre 11h et 2h du matin dans la nuit du 10 au 11 septembre. L'inspecteur chargé de l'affaire témoigna qu'il y avait une décharge à moins de 70 mètres du bungalow et que dans l'après-midi du 11 septembre, on avait retiré 3 pièces à conviction de cette décharge. Premièrement, 2 bouteilles vides de bière Narragansett portant les empreintes digitales de l'accusé. Deuxièmement, 12 mégots de cigarettes, des Cools, la marque de l'accusé. Troisièmement, un moulage en plâtre d'une paire d'empreintes de pneus, correspondant exactement au dessin des pneus de la Plymouth 1947 de l'accusé. On avait trouvé 4 torchons sur le divan du salon, dans le bungalow de Quentin, troués par des balles et brûlés par la poudre. L'inspecteur avait supposé, malgré les objections désespérées de l'avocat, que le meurtrier avait enroulé les torchons autour du canon de l'arme pour étouffer le bruit des détonations. Andy Dufresne avait pris la parole pour se défendre lui-même et avait raconté son histoire d'une voix calme et sans passion. Il dit avoir entendu des rumeurs alarmantes sur Quentin et sa femme dès la fin juillet. En août, l'inquiétude avait été suffisante pour qu'il se renseigne un peu. Un soir où Linda était censée aller faire des achats à Portland après sa leçon de golf, Andy l'avait suivi, ainsi que Quentin, jusqu'au bungalow de location, inévitablement traité de nid d'amour par les journaux. Il s'est égaré dans une allée jusqu'à ce que Quentin raccompagne son épouse au country club où elle avait laissé sa voiture, environ 3 heures plus tard. Vous voulez faire croire à la cour que vous avez suivi votre femme dans votre Plymouth flambant neuve ? Lui avait demandé le procureur dans son contre-interrogatoire. J'ai changé de voiture avec un ami pour la soirée, avait répondu Andy, reconnaissant froidement à quel point il avait préparé son enquête, ce qui ne lui fit aucun bien dans l'esprit des jurés. Après avoir rendu la voiture à son ami et repris la sienne, il était rentré chez lui. Linda était au lit, en train de lire. Il lui avait demandé comment s'était passé son voyage à Portland. « Très agréable », avait-elle répondu, sauf qu'elle n'avait rien vu dont elle ait assez envie pour l'acheter.
« C'est là que j'ai été vraiment convaincu », dit Andy au public, suspendu à ses lèvres.
Il parlait de la même voix calme et lointaine qu'il devait garder tout au long des débats. « Quel était votre état d'esprit pendant les 17 jours entre cette date et la nuit où votre femme a été tuée ?» lui avait demandé son avocat.
« J'étais dans une grande détresse », avait répondu Andy,
calmement, froidement, comme s'il avait récité la liste de ses emplettes. Il dit qu'il avait pensé au suicide et qu'il était même allé jusqu'à s'acheter un revolver à Lewiston le 8 septembre. Son avocat l'invita ensuite à raconter au jury ce qui s'était passé après que sa femme l'eût quitté pour rejoindre Quentin le soir du meurtre. Andy raconta et fit la plus mauvaise impression possible. Je l'ai connu pendant presque 30 ans, et je peux vous dire que c'est l'homme le plus maître de lui que j'ai jamais connu. Ce qui allait bien pour lui, il vous l'accordait peu à peu. Ce qui allait mal, il le gardait à l'intérieur. Si jamais il traversait une nuit noire de l'âme, comme a dit je ne sais quel écrivain, jamais vous ne le sauriez. C'était le genre d'homme, s'il avait décidé de se suicider, qu'il l'aurait fait sans laisser de lettres, mais en mettant toutes ses affaires en ordre. S'il avait pleuré à la barre, ou si sa voix s'était alourdie, avait hésité, ou même s'il s'était mis à crier sur ce procureur en route pour Washington, je ne crois pas qu'il aurait récolté perpète. Et même alors, il aurait pu sortir en conditionnel en 1954. Mais il a raconté son histoire comme un magnétophone, comme s'il disait au jury « C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Ils ont laissé. Il dit qu'il était ivre ce soir-là, qu'il était plus ou moins ivre depuis le 24 août et qu'il n'avait jamais bien supporté l'alcool. Déjà, n'importe quel jury aurait eu du mal à croire ça. Il ne pouvait tout simplement pas s'imaginer ce jeune homme, si froid et si maître de lui dans son élégant costume croisé, se saoulant à cause de la liaison minable de sa femme avec un golfeur de province. J'y ai cru parce que j'ai pu observer Andy comme ces 6 hommes et ces 6 femmes n'en ont pas eu l'occasion. Andy Dufresne a bu exactement 4 verres par an tout le temps que je l'ai connu. Il venait me voir dans la cour de promenade à peu près 1 semaine avant son anniversaire et ensuite 15 jours avant Noël. Chaque fois pour se procurer une bouteille de Jack Daniels. Il s'arrangeait pour l'acheter comme font la plupart des tolards, avec le salaire d'esclave qu'on nous donne, plus un peu d'argent à lui. Jusqu'en 65, on touchait 10 cents de l'heure. En 65, ils ont monté jusqu'à 25 cents. Sur l'alcool, je prenais et je prends une commission de 10%. Et quand on ajoute à ça le prix d'un bon whisky à déguster comme le Black Jack, vous imaginez le nombre d'heures qu'il lui fallait transpirer dans la buanderie de la prison pour se payer ses 4 verres par an. Le matin de son anniversaire, le 20 septembre, il buvait un bon coup, et il en buvait un autre le soir après l'extinction des feux. Le lendemain, il me donnait le reste de la bouteille et j'offrais à la ronde. Quant à l'autre bouteille, il buvait un verre le soir de Noël et un autre au jour de l'an. Et elle aussi me revenait pour que je la fasse passer. 4 verres par an. C'est le comportement d'un homme qui a été durement touché par la bouteille. Assez durement pour le faire saigner. Il dit au jury que le soir du 10, il était ivre au point de n'avoir plus que des bribes de souvenirs. Il s'était saoulé l'après-midi. « J'ai pris une double ration de courage hollandais », dit-il, avant d'affronter Linda. Après qu'elle est allée retrouver Quentin, il s'est souvenu de s'être décidé à une confrontation. En allant au bungalow de Quentin, il a fait le détour par le country club pour boire 1 ou 2 verres. Il ne se souvenait pas,
d'après lui, avoir dit au barman qu'il pourrait lire la suite dans les journaux, ni ne lui avoir dit quoi que ce soit. Il se souvenait d'avoir acheté de la bière au Handy Peak, mais pas les torchons. « Qu'est-ce que j'aurais fait avec des torchons ?» demanda-t-il. Et un journal rapporta que 3 des femmes jurées eurent le frisson. Plus tard, beaucoup plus tard, il fit devant moi des conjectures à propos de l'employé qui avait témoigné au sujet des torchons, et je crois que ce qu'il a dit vaut d'être noté. « Suppose qu'en recherchant des témoins, » me dit Andy un jour à la promenade, « il soit tombé sur ce type qui m'a vendu la bière. Il s'est déjà passé 3 jours. Les éléments de l'affaire ont été étalés dans tous les journaux. Ils ont pu tous lui tomber dessus, 5 ou 6 flics, plus l'inspecteur du bureau du procureur, plus l'assistant du proc. La mémoire est quelque chose de salement subjectif, Red. Ils ont pu commencer par « n'est-il pas possible qu'il ait acheté 4 ou 5 torchons ?» et continuer à partir de là. Quand suffisamment de gens veulent qu'on se souvienne, c'est une sacrée force de persuasion. J'ai convenu que c'était possible. Mais il y en a une encore plus forte, continua Andy de son ton pensif. Je crois possible, en tout cas, qu'il se soit persuadé lui-même. Il y avait les projecteurs, les journalistes lui posant des questions, sa photo dans les journaux, le tout couronné bien sûr par son rôle de vedette au procès. Je ne dis pas qu'il a délibérément falsifié son histoire, ni qu'il s'est parjuré. Je crois qu'il aurait peut-être pu passer le détecteur de mensonges haut la main ou jurer sur la tête de sa mère que j'avais acheté ses torchons. Mais tout de même, la mémoire est quelque chose de foutrement subjectif. En tout cas, il y a ça. Même si mon propre avocat croyait que la moitié de ce que je racontais était que des mensonges, il n'a jamais avalé cette histoire de torchons. À première vue, c'est dingue. J'étais saoul comme un cochon, trop saoul pour avoir pu penser à étouffer les détonations. Si je les avais tués, j'aurais juste envoyé la sauce. Il était allé se garer dans l'allée. Il avait bu de la bière, il avait fumé. Il avait vu la lumière s'éteindre au rez-de-chaussée de chez Quentin. Il avait vu s'allumer une lampe au premier, et cette lampe s'éteindre un quart d'heure plus tard. Le reste, dit-il, il pouvait l'imaginer.